Direct en jeu, la radio insolite, au coin de la Lune, avec un grand bonhomme qui nous passe de l'Égypte ancienne à la royauté. Je suis avec Alexandre de Limoges, qui est cette fois-ci sur scène, alors qu'il sait écrire, il sait mettre en scène, il sait danser, il sait chanter, il sait tout faire. Et là, tu viens de nous jouer ?
Non, voilà, il se moque de moi parce que je ne sais pas chanter. Je ne sais surtout pas danser, d'ailleurs. Mais j'aime écrire. Je ne sais pas si je sais le faire. J'aime écrire. Oui, la dernière fois, on s'est vu pour Pharaon. Alors là, c'est le procès Fouquet. Donc oui, on a sauté tout d'un coup, combien, 2000 ans à peu près, hein, on est en 1630. Ouh là là, il faut que je révise mon histoire. Je l'ai écrit il y a 3 ans, on le joue maintenant seulement. Bon, enfin voilà. Nous voilà sous Louis XIV, à la cour de Louis XIV. Alors là, c'est le procès Fouquet, c'est le panache de Nicolas Fouquet et la corruption de Jean-Baptiste Colbert. Non, mais là, je suis partisan puisque je suis Fouquet. Peut-être que lui dirait le contraire.
Mais non, la corruption à l'époque, ça n'existait pas, voyons.
Voyons. Et puis, ça n'a pas bougé, surtout. Ah non, on est toujours en plein dedans. Non, c'est le prétexte pour raconter, évidemment, la corruption. Mais aussi, le nouveau système, l'État fonctionne à crédit. C'est ça que je raconte dans le procès Fouquet, c'est l'État fonctionne à crédit. Et on ne peut pas fonctionner sur les simples impôts. C'est terrible d'ailleurs, parce que s'il y avait un équilibre financier, tout le monde serait beaucoup plus tranquille. Ça ne fonctionne pas comme ça depuis Richelieu, Mazarin, et encore plus Fouquet et Colbert. Donc voilà, c'est ça qui est raconté à l'occasion de ce procès qui devait durer un jour et qui finalement dure 3 ans, qui condamne... Ah ben voilà, on est à la Luna en direct là. on vient d'appeler pile ou face. Oui, on est sur un procès qui devait durer un jour parce que Louis XIV voulait symboliquement condamner Fouquet pour dire voilà, je prends ma monarchie absolue, je monte sur le trône et puis il n'y a plus aucun ministre qui va me diriger dorénavant. Donc on va condamner ce ministre des Finances qui sert de bouc émissaire, Nicolas Fouquet. Sauf que Nicolas Fouquet se défend très très bien et puis il a des forts, beaucoup de soutien par sa femme, par sa mère qui dirige une imprimerie de province donc en sous-couche va essayer de retourner l'opinion publique, mais aussi Sévigné, Madame de Sévigné, La Fontaine qui perd tous ses titres et ses rentes royales parce qu'il prend parti pour Fouquet. Bref, ce procès dure finalement 3 ans au lieu d'un jour et humilie le roi et ébranle le trône, on peut dire. Donc voilà, c'est ce... Et puis Colbert en face qui est terrible, qui est joué par Bernard Bollet, que j'adore, enfin qui est d'un charisme fou, d'une cruauté folle, qui garde son calme. Il me fait penser à Sirius Black, là, le prof là, dans Harry Potter. Il est vraiment terrible face à moi. J'ai du mal à me défendre parce qu'il lâche pas le morceau, ce petit roquet. C'est Colbert terrible. Terrible de malhonnêteté parce que faux documents, faux témoignages. Il achète tout le monde. Bon, au nom du roi, bien sûr, mais enfin, il y participe. Tout ça pourquoi ? Pour prendre sa place. Pour prendre la place de Fouquet, évidemment. Et il y arrive. Mais la défense et les arguments me semblaient suffisamment intéressants pour écrire ce spectacle. Voilà. Pardon de parler autant. Hein.
Alors, de ce que je sais, moi, Fouquet a provoqué, entre guillemets, le roi, étant donné le fait que le roi était jaloux. Il avait quand même un château, je crois que c'est Vaux-le-Vicomte, qui était sacrément beau, et même parfois plus beau que Versailles.
Ah, plus beau que Versailles, non, je crois pas. Il est beaucoup plus petit. Hein. Mais enfin, il a été comme le brouillon de Versailles, parce que le Brun, le Vaux, le Nôtre, les grands artistes, architectes et jardiniers ont travaillé à Le Vaux, à Vaux-le-Vicomte. Et puis, il travaillait déjà un petit peu avec la cour, hein, quand même. Mais Louis XIV les a donc emmenés pour agrandir Versailles ensuite. C'était qu'un petit village à ce moment-là. Mais la fête de Vaux-le-Vicomte a énervé le roi, bien sûr. C'était la goutte d'eau, parce qu'en vrai, l'arrestation de Fouquet, qui a eu lieu donc un mois plus tard, était déjà décidée depuis des mois. C'est Anne d'Autriche, la régente, la reine mère, qui a dit à son fils écoutez, Louis, vous ne pouvez pas quand même ne pas aller à cette fête. Toute la France va aller à cette fête. Vous l'arrêterez juste après. Et donc, voilà, cette fête a quand même eu lieu, mais l'arrestation de Fouquet était déjà décidée par D'Artagnan aux États de Bretagne en septembre.
Alors, ce qui est fou, c'est que ce n'est pas du tout romancé, c'est vraiment historique.
Ah oui, complètement. C'est en visitant le château de Vaux-le-Vicomte que j'ai eu envie d'écrire ça, moi, parce que c'est tout bête, mais l'audio guide de Vaux-le-Vicomte Et une pièce entièrement dédiée à ce procès, là-bas, explique de manière tellement vivante, allez voir visiter ce château. Bon, j'imagine que la plupart qui nous écoutent ont déjà visité, peut-être, mais ça vaut le coup d'aller le visiter, parce que c'est vrai qu'il est précurseur dans plein de choses. Il a aussi inventé les jardins à la française, grâce à le nôtre, mais aussi cette façon de manger et de... grâce à Vatel, donc son majordome cuisinier excellent qui a amené l'excellence à la cour, la beauté, la grâce, la présentation, la délicatesse des mets, tout ça, c'est le Vatel, qui était à ce moment-là uniquement, enfin, le majordome, on va dire, le maître d'hôtel, je ne sais pas comment, qui s'occupait des cuisines de Fouquet, qui est devenu ensuite, on va dire, la référence dans l'accueil à la française.
Tu ne te trompes jamais quand tu joues ? Tu mets pas des répliques de Pharaon en plein Fouquet ou vice-versa ?
Non, ça va, parce que c'est tellement éloigné. Par contre, il a pu m'arriver... Bon, ben là, c'est nouveau, le procès Fouquet, c'est une création, là. On l'a joué une dizaine de fois. Mais peut-être j'ai pu mettre de temps en temps des mots de Gustave Eiffel. Parce que Gustave Eiffel, je l'ai joué 700 fois. Bon, il est encore très ancré là. Il est très. Puis je le joue encore là en ce moment, Gustave Eiffel. Donc peut-être ça m'arrive deux fois de mélanger un peu les deux. Non, après c'est la fatigue. Malheureusement, ça n'a rien à voir avec le fait de jouer trois spectacles. C'est parce que c'est la fatigue. Et là, j'ai vu aujourd'hui, j'ai bafouillé pas mal. Enfin. Ouais, j'ai mélangé des trucs. Bon, ça rend le truc vivant en même temps, parce que même le public là, qui témoignait pour l'un ou pour l'autre, qu'on a appelé, là, qui s'est levé pour parler, nous-mêmes, des fois, on mélangeait les... C'était un peu le bazar aujourd'hui. Bon, ça a rendu le truc vivant, hein. Mais bon, c'était le bazar.
Enfin, moi, j'ai été choisi au hasard pour faire D'Artagnan, mais j'avais pas d'épée.
Mais quel panache. En même temps, il manquait plus que la plume. Sur la tête, bien sûr.
Et comment tu les choisis dans le public ? Parce qu'il y a 6 personnages que tu choisis.
Alors, quand je connais personne, mais là, je te connaissais, donc voilà. Et puis, je connaissais aussi la comédienne qui était derrière toi, Isabeau Dehaere. Je ne sais pas si tu vois dans l'humour et dans le One Man Show, c'est une grande dame, voilà. D'ailleurs, elle jouait la référente dictionnaire avec une certaine... Elle a mis une espèce de bourgeoisie tout d'un coup. J'ai éclaté de rire, évidemment. Mais... comment je choisis ? C'est un peu par hasard. C'est un peu par hasard. J'essaie d'avoir des enfants pour jouer les deux financiers véreux. Mais je ne trouve pas souvent. Là, en ce moment, il n'y a pas d'enfants. Je ne sais pas pourquoi. Ils ne sont peut-être pas encore arrivés. Et puis des personnes ensemble pour faire Louise de Lavallière ou Anne d'Autriche. Alors, avec une génération d'écart, si j'y arrive. Un président comme ça, un peu souvent grand, comme ça, un peu corpulent, pour faire un président. D'Artagnan, il doit être très sexy, comme toi, hein, donc alors là je suis complètement lèche-botte, mais non, c'était pour te faire rire.
Alors, j'entends quelqu'un au sortir qui a dit mais on n'a même pas besoin d'aller à l'école, on vient assister au spectacle, on apprend plein de choses.
Qu'est-ce que t'en penses?
À moi, si on m'avait appris l'histoire de cette manière là j'aurais adoré.
Moi aussi, en fait, je ne sais pas si j'aurais aimé, puisque je n'ai pas vu le spectacle. Mais en tout cas, je sais que je n'aimais pas mes cours d'histoire. Et je pense que les profs d'histoire, en plus, sont souvent passionnants, mais je crois qu'ils sont dans leur truc, je ne sais pas. Pour moi, ils n'arrivaient pas à transmettre, en tout cas les miens. Et je n'aimais pas du tout l'histoire. J'étais très mauvais, en géo, n'en parlons pas. Mais j'ai aimé l'histoire dès que j'ai pu sortir de l'école, en fait. Lire, tout ça, ça m'a passionné. Parce que les petites histoires, ça raconte la grande histoire. Donc, qu'elles soient inventées ou vraies, finalement, c'est ça qui compte. C'est l'humain, c'est par nos problèmes, nos petits problèmes de couple, nos grands problèmes d'argent, nos je sais pas quoi, bon, tout ça, ou le contraire, nos grands problèmes de couple et nos petits problèmes d'argent. Et tout ça, c'est ça qui change l'histoire, en fait, le cours de l'histoire, qu'on soit donc aux commandes du pouvoir ou pas. Tout ça raconte. Et je trouve que dans les cours d'histoire, on raconte pas ces histoires. Et c'est ça qui, en fait, est intéressant. C'est notre psychologie. La jalousie de Colbert, l'envie de faire grandir sa famille qui, finalement, est un peu parvenue et qui a pas beaucoup de place. C'est des drapiers d'Amiens, mais qui n'arrive pas à sortir de ça. Bon, voilà. Et c'est cette envie de réussite, de reconnaissance qui le fait. Il est prêt à tout pour... il tuerait père et mère. Enfin, justement, pas lui, mais en tout cas, il tuerait Fouquet pour y arriver. Bon, Colbert, Fouquet, lui, c'est autre chose. Il est très, très dans la religion. Il a une mission presque divine de servir le roi. C'est un autre truc. Au passage, il se sert financièrement, bien sûr, mais il a été à bonne école parce qu'il a servi Mazarin avant. Mazarin, lui, c'est celui qui se servait le plus. Bon, c'est un véreux complètement... voilà. Donc, ce n'était pas une intention de mal faire, c'était la pratique. Contrairement à Colbert qui, lui, sait qu'il vole. Voilà. Mais c'est intéressant de voir leur psychologie, puis qu'est-ce qui les motive à faire tout ça. Donc, dans l'histoire, les cours d'histoire à l'école, on n'étudie pas ça, et ça, c'est dommage. Alors, on peut le faire au théâtre. Montrer tous ces sentiments qui changent le cours de l'histoire. Voilà, peut-être que bientôt on fera un spectacle sur Macron et Attal, et puis on verra pourquoi, voilà, qu'est-ce qu'il y a entre Marine Le Pen et Bardella, tu vois. Pourquoi Mélenchon, qui quand même, je veux dire, qui a l'air d'être un vrai connard, il défend des idées qui peuvent se tenir, j'en sais rien, oui ou non, mais enfin, je veux dire, pourquoi ces gens sont... Ils doivent être sacrément... Ils doivent avoir des problèmes psychiatriques graves, quoi. Enfin, et ça, ce serait bien de faire un spectacle là-dessus, parce que c'est pas juste raconter ce qui s'est passé comme ça à froid. Non, c'est qu'est-ce qui s'est passé à la maison et dans leur tête et petit avec leurs parents pour qu'ils en arrivent là. C'est ça qu'on essaie de raconter.
Ça, c'est du sincère et d'authentique. On rappelle où est-ce que ça joue, à quelle heure ça joue, comment on fait pour réserver?
Alors, il faut le réserver idéalement sur Ticket Off et puis sur Billets Réduits éventuellement, mais aussi sur le site de la Luna, puisque ça fait partie du groupe Luna. Ça se joue au coin de la Lune, donc 24 rue Buffon, et c'est à 14h30 tous les jours, juste une relâche le lundi 13 juillet.
Merci à toi.
Merci.